VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, les soldats mutinés depuis vendredi ont rouvert les accès de Bouaké, deuxième ville du pays.
Au Burundi, le président Nkurunziza crée une commission pour réécrire la constitution du pays.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola signalée dans le nord-est devrait pouvoir être contrôlée rapidement selon l'OMS.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir demain une réunion d'urgence sur le dernier test de missile de la Corée du Nord.
Le nouveau président français Emmanuel Macron en Allemagne aujourd'hui, après avoir nommé son premier ministre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les soldats ivoiriens mutinés depuis vendredi ont rouvert hier les accès de Bouaké, deuxième ville du pays, qu'ils bloquaient. Mais ils refusent toutefois de rendre les armes, exigeant toujours leur prime. D'Abidjan, des détails avec notre correspondante Narita Namasté.
Des soldats ivoiriens mutinés depuis vendredi ont ouvert les accès à Bouaké, la deuxième grande ville du pays, après une rencontre entre des officiers de l'armée ivoirienne et chefs rebelles et les mutins. Le calme est revenu sur Bouaké. Les corridors nord et sud ont réouvert à la circulation, même si elles n'enregistrent pas une grande affluence. À Abidjan, où le calme était revenu, les mutins ne désarment pas. Des tirs ont été entendus dans le nouveau camp et l'ancien camp d'Akwedo, situé au nord d'Abidjan. Le chef d'état-major des armées, Sékou Touré, a annoncé dimanche soir une opération en cours pour rétablir l'ordre face à la vague de mutinerie qui paralyse plusieurs villes du pays depuis vendredi. Une situation extrêmement tendue pour un début de semaine. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Cette mutinerie de soldats a provoqué la mort d'un homme blessé par balle à Bouaké, grande ville du centre, toujours contrôlée dimanche par les militaires qui tenaient aussi Korogo, dans le nord du pays. Un premier bilan faisait aussi état d'une vingtaine de blessés, dont 6 par balle, depuis ce nouveau mouvement de grogne de 100 à 300 soldats qui fait suite à une précédente mutinerie en janvier dernier. Les mutins, à l'époque, avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux. Ils ont obtenu le versement dès janvier de 5 millions. Le reliquat de 7 millions restants devait être payé par tranche à partir de ce mois de mai.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola annoncée par les autorités de Kinshasa dans le nord-est du pays devrait pouvoir être contrôlée rapidement, a déclaré hier une responsable de l'Organisation mondiale de la santé qui a félicité les autorités pour leur réponse rapide face à cette nouvelle épidémie, la huitième à laquelle le pays doit faire face depuis la découverte du virus Ebola sur son sol en 1976.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a mis en place vendredi une commission de 15 membres chargée de réécrire la Constitution. Le nouveau projet vise notamment à faire sauter le verrou sur la limitation des mandats présidentiels, tel que recommandé par le dialogue inter-burundais. L'opposition en exil, pour sa part, parle d'une nouvelle violation de la Constitution en vigueur. Le président du Frodebu, Frédéric Bamvuginyumvira, met l'accent sur l'article 299.
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire. Je déduis que la révision de la Constitution vient justement s'attaquer au contenu de l'article 299, pour autant qu'il y a plus de 500 000 Burundais qui sont à l'extérieur. Deux, il y a un conflit autour des mandats et du respect de la Constitution. De faire résurgence des conflits ethniques, cette révision viendrait conforter Nkurunziza dans sa politique de diviser le peuple burundais. Donc, entamer la cohésion du peuple burundais. Trois, cette procédure ne peut pas intervenir pour autant qu'elle viole la démocratie. Il va être poursuivi devant la Haute Cour de justice et aura lieu un jour pour avoir trahi le peuple burundais.
Frédéric Bamvuginyumvira, joint à Bruxelles par Eric Manirakiza.
Au Gabon, des partisans de la coalition de la Nouvelle République dirigée par Jean-Ping se sont rassemblés hier à Libreville devant l'ambassade de France. Profitant de la prise de fonction du nouveau président français Emmanuel Macron, des femmes y ont symboliquement déposé une bouteille remplie de sable pour attirer l'attention de M. Macron sur le risque d'implosion de la société gabonaise. Citation. Éric Manirakiza, de nouveau adjoint à Libreville, la présidente du réseau Femmes Lève-toi, Nathalie Zemo.
L'objectif, c'était de l'interpeller sur la situation du Gabon. C'est vrai que M. Hollande a été une vraie déception pour les Africains, avide de démocratie, parce qu'il a prolongé la France-Afrique. M. Macron arrive au pouvoir. Il a fait un certain nombre de déclarations, notamment sur l'élection de M. Ali Bongo, qu'il avait qualifié de douteuse.
Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger le nouveau président français ?
Si on s'arrête face au déni de démocratie en se disant que les carottes sont cuites, on ne fera jamais évoluer notre pays dans le sens de la liberté et de la démocratie à laquelle le peuple gabonais aspire. Le litige électoral reste entier. Donc, n'étant pas pour la violence ou la guerre civile, nous n'avons pas d'autre alternative qu'une résistance pacifique. Nous ne lâchons rien, nous comptons continuer à faire entendre notre voix partout, au Gabon et à l'étranger, parce qu'il est temps que l'Afrique centrale évolue. Amorce son développement et nos dirigeants des 50 dernières années nous ont démontré qu'il n'y aura jamais de développement dans une partie du continent tant qu'il n'y aura pas de démocratie.
C'était Nathalie Zemo, contactée à Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir demain une réunion d'urgence sur le dernier test de missile de la Corée du Nord. Cette réunion a été demandée par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Selon l'agence de presse officielle KCNA, la Corée du Nord a testé avec succès un nouveau modèle de missile balistique stratégique de moyenne à longue distance.
La cyberattaque sans précédent qui a frappé plus de 200 000 victimes dans au moins 150 pays depuis vendredi alimente la crainte d'un cyberchaos. Les experts redoutent une recrudescence du virus ce lundi lorsque des millions d'ordinateurs seront rallumés, en Asie notamment.
En France, le nouveau président Emmanuel Macron a promis hier dans son discours d'investiture de refonder l'Europe et de rendre confiance aux Français. Il doit désigner aujourd'hui son premier ministre selon le calendrier évoqué par son entourage, Jean-Roger Bian.
Le président Macron a dit qu'il ne cédera sur rien des engagements pris. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, a-t-il assuré. Il s'est aussi engagé à réformer profondément la vie politique de la France dans la volonté constante de réconcilier et rassembler un pays très divisé, en proie à un chômage endémique et toujours sous état d'urgence à cause des menaces terroristes. La tâche ne sera pas facile. Monsieur Macron a besoin de remporter la majorité lors des législatives des 11 et 18 juin pour gouverner et mettre en œuvre ses promesses. Le nouveau chef de l'Élysée, qui prône une Europe à la fois conquérante et protectrice, effectue son premier déplacement à l'étranger aujourd'hui à Berlin. Il rencontre la chancelière Angela Merkel pour relancer l'axe franco-allemand. Madame Merkel a souligné dernièrement des convergences de vues avec le chef de l'État français.
En Syrie, plus de 2000 civils et insurgés ont été évacués hier d'un troisième quartier rebelle de Damas. C'est ce qu'ont annoncé des médias d'État syriens, ce qui rapproche davantage encore le régime de son objectif d'éradiquer toute présence rebelle dans la capitale. Les évacuations du quartier de Kabun font suite à celles de deux autres quartiers rebelles de Damas, Barzeh et Techrin, tenus depuis 2012 par les opposants au président Bachar al-Assad. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Les prix du cacao ont grimpé il y a quelques jours à leur plus haut niveau depuis un mois, la tonne atteignant environ 2000 dollars. Les cours du cacao étaient restés relativement stables ces derniers temps. Mais vendredi dernier, plusieurs villes de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, ont été paralysées par des mutineries. Une reprise des affrontements dans le pays pourrait perturber les récoltes et l'offre sur le marché mondial. Le Fonds monétaire international va débloquer la deuxième tranche d'un prêt de 12 milliards de dollars accordé à l'Égypte pour permettre au Caire de relancer une économie en berne depuis la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak. Cette deuxième tranche d'1,25 milliard de dollars, qui devrait être déboursée durant le mois de juin, doit encore être avalisée par le Conseil d'administration du FMI. La maison d'enchères Sotheby's tiendra demain à Londres sa première vente d'art moderne et d'art contemporain africain. Au total, 115 créations de 63 artistes issus de 14 pays seront proposées aux enchères. Les principales pièces de cette vente sont des réalisations du Ghanéen El Anatsoui, des Sud-Africains William Kentridge et Irmaiston. Les trois ont déjà dépassé le cap du million de dollars pour une œuvre lors de précédentes enchères.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 17 ans, la compétition démarre fort au Gabon.
Oui, deux matchs et 10 buts. D'abord, le pays hôte, le Gabon, qui a été surclassé d'entrée par la Guinée, 5 buts à 1 dans le second match. Le Ghana n'a pas fait de détails devant le Cameroun, score 4 buts à 0. Guinéens et Ghanéens partagent donc la première place de ce groupe A. La suite de cette première journée ce lundi et en première heure, le tenant du titre, le Mali, sera face à la Tanzanie et en seconde opposition, on aura Angola-Niger.
On parle maintenant de la première journée de la phase de groupe des Coupes africaines.
Oui, 32 équipes sur la ligne de départ avec plusieurs matchs. En Ligue des Champions, en ouverture, l'Espérance de Tunis s'est imposé devant le Vita Club de Kinshasa, 3 buts à 1, et s'en passe seul de la tête du groupe C, puisque le tenant du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, ont été accrochés à domicile par les Éthiopiens de Saint-Georges 0 à 0. Même score à Alessandrie dans le groupe D, entre le National du Caire, Al Ahly, et les Zambiens de Zanaco. Là aussi, ce sont les Marocains du WAC qui sont en tête suite à leur victoire de 2 à 0 face aux Camerounais de Coton Sport de Garoua.
Élisée, pour cette première journée, on peut noter surtout le carton plein des clubs d'Afrique du Nord.
Effectivement, Idrissa, 5 victoires en autant de matchs à domicile, 15 buts marqués et un seul encaissé. Ça démarque donc très fort pour les clubs venus du Maghreb et pour l'Étoile du Sahel. Les Tunisiens ont écrasé les Mozambicains de Ferroviaro 5 buts à 0 et prennent seul la tête du groupe A puisqu'il n'y a pas de vainqueur dans le derby de Khartoum entre Al Hilal et El Merriek. Score 1 partout. Carton plein également pour les Algériens de l'USMA. Le club d'Alger a maîtrisé les Libyens d'Al Ahly Tripoli 3-0 pour prendre la tête devant le Zamalek. Le finaliste de la précédente édition a aussi tenu son rang en s'imposant 2-0 contre Caps United.
On jouait aussi en Coupe de la Confédération.
Et le tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, a réussi son entrée en s'imposant 2-0 dans son entre de Kamalondo. Les Corbeaux profitent du match nul 2-2 entre Supersport et Oroya pour prendre la tête de la poule. Pour le reste, dans le groupe A, le FUS de Rabat et le club africain de Tunis, vainqueurs respectivement des Ougandais de Kampala City 3-0 et des Nigériens de Rivers United 3-1, partagent la première place. Le club sportif sfaxien et son nouvel entraîneur, le Portugais Jorge Costa, occupent seul la tête du groupe B après le match nul 1-1 entre le MC Alger et Platinum Stars. Le groupe C est dominé par le Recreativo Libolo et Zesco United.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Bénin avec le sacre du Burkinabé, Abdulaziz Nikiema.
Oui, et il fallait attendre la dernière étape, un critérium de 80 km à travers les rues de Cotonou pour connaître le vainqueur de cette édition de 2017. Abdulaziz Nikiema succède ainsi à un autre Burkinabé, Mathias Sorgho. Un vainqueur heureux qu'on écoute.
C'est le Burkina qui gagne. C'est pas moi, je l'ai gagné. C'est toute l'équipe qui a gagné. Donc, l'essentiel, c'est de gagner le meilleur joueur. C'est pas qu'il soit la personne, non, Mathias, ou pas. Tous ceux qui sont là, c'est, on a la
personne. Monsieur Lucien.
Donc, celui qui a eu le meilleur joueur. Tout le monde travaille pour lui.
Donc,
enfin, c'est moi qui a gagné. Donc, je suis très content. Et personnellement, je suis très content de toute l'équipe qui m'a fait un sacré boulot. L'essentiel est de garder le meilleur jaune pour la nation du Burkina Faso.
A noter que la cinquième étape de ce Tour du Bénin a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo en 1h49 minutes et 52 secondes. Et puis du basketball, la NBA, la suite des playoffs. Et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Golden State, malgré deux premières périodes catastrophiques, est venu à bout de San Antonio, 113 à 111, dans le match numéro 1 de la finale. finale de la conférence Ouest hier. Les Warriors sont toujours invaincus depuis le début des playoffs 2017 et mènent une victoire à zéro face aux Spurs avant le match numéro 2 qui aura lieu mardi, toujours dans leur salle. Mais cette victoire a longtemps semblé inaccessible puisqu'ils ont compté jusqu'à 25 points de retard, 44-19.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, comme vous le savez, la situation reste tendue en ce lundi à raison des soldats mécontents qui manifestent depuis quelques jours dans plusieurs villes du pays, dont Abidjan, la capitale économique. Ils exigent le paiement de primes promises par le pouvoir. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, fait le point.
Vendredi mouvementé à Abidjan, mais aussi à Boaké dans le centre, à Korogo et Odiené dans le nord, ou encore à Man dans l'ouest. Kalachnikov à la main et en cagoulé, des soldats mécontents ont tiré en l'air et paralysé en certains endroits le fonctionnement normal de l'administration. Les banques et le commerce sont fermés, les populations apeurées se sont précipitées chez elles. Au centre de ce nouvel accès de colère, une déclaration faite la veille par certains soldats devant le président Ouattara au nom de leurs camarades.
Soldats, des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financière.
C'est donc la délicate question des primes que le gouvernement a promis de leur verser après la mutinerie de janvier dernier qui refait surface. Après avoir obtenu un premier versement de 5 millions de francs CFA, les mutins attendent pour ce mois-ci un autre versement. Au sein de la population, les avis sont partagés sur ces mutineries.
Si elle est tirée, c'est le maçon qui envoie tout cela parce que le pouvoir en place ment. Depuis dès le départ, ils ont menti. Le maçon est là, ça continue. On nous a fait croire que oui, ils se sont entendus, ils se sont retirés. Mais d'où vient l'équipe ?
Mon impression, c'est que le président de la République trouve intérêt d'entente avec nos frères qui ont pris les armes pour que la situation se calme et que la vie continue et que les choses avancent et que les Ivoiriens soient encore en paix.
La classe politique a elle aussi réagi à ces nouveaux bruits des bottes. Pascal Afingessan, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, demande la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
Les événements actuels ne viennent confirmer la nécessité d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement-là a montré ses limites. Il a échoué à reformer l'armée et à assurer la sécurité des Ivoiriens. Il a échoué sur le plan économique, il a échoué sur le plan social. Il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire.
Joël Nguessan, porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, condamne cette nouvelle mutinerie.
Ils n'ont pas à tirer en l'air pour effrayer les populations. Ils s'élèvent, ils tirent en l'air, ils effraient les populations. Trop, c'est trop. Et je peux vous dire que les Ivoiriens en ont vraiment nous encourageons le président de la République à être ferme dans sa position, à ne céder à aucun chantage.
Quant au chef d'état-major de l'armée, il a brandi la menace de sanctions disciplinaires sévères à l'encontre des mutins. Des mutins qui ont fait fi de cette mise en garde en poursuivant samedi leur mouvement de revendication à travers plusieurs villes du pays. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM. VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, 3 attaques, une vingtaine de morts du côté de l'armée malienne et de ses alliés. C'est le bilan des 2 semaines d'attaques attribuées à la nouvelle alliance que dirige Iyad Aggali. Les militaires maliens, un total de 22 morts à Gourma Raous, Nampala et Al-Mustrat, sont donc les plus grandes victimes ou les plus grandes cibles de ces attaques, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est une unification de mouvements terroristes autour de Iyad Aggali qui a permis de voir la mise en place de cette alliance composée de Amadou Koufa du Mali, Ibrahim Malam Diko du Burkina Faso et d'autres terroristes. Leurs cibles les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sans oublier leurs alliés. Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue.
C'est des gens qui ont compris que le terrain a changé et qu'il faille aussi changer les modes d'opération. Du coup, l'armée malienne doit s'adapter en fonction de leur leurs méthodes. Cela est dû au fait qu'il y a Dakombi qui n'a aucune porte de sortie et qu'il était obligé, il sera obligé effectivement de trouver un accord de tous les mouvements pour pouvoir faire face, pas seulement à l'armée malienne, face à la communauté internationale, parce que c'est ça. Et de la manière dont ils ont occupé le Nord, qu'est-ce qui ne prouve pas qu'ils puissent rebondir encore avec beaucoup de stratégies pour pouvoir nous empêcher de vivre tranquille.
Cette nouvelle alliance de groupes terroristes fait peur aux Maliens. Certains pensent qu'il faut négocier avec eux, à l'image de Modibo Fofana, journaliste.
Cette alliance ne m'a pas surpris. Je pense qu'avec cette alliance encore, qui va s'étendre même à l'extérieur, ça va nous nuire davantage parce qu'associer Yad au processus de dialogue est devenu logique. En réalité, les vrais maîtres sur le terrain, c'est Yad. On a cru à la CIMA et aux autres groupes armés en signant un accord avec eux, mais nous nous sommes rendus compte que la situation encore s'est empirée. Et la situation du terrain nous impose à aller avec Yad.
Négocier avec Yad Agali n'est pas de l'avis de Bamako, qui est préoccupé par la mise en place de la force commune du G5 Sahel pour venir à bout des terroristes. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Nous avançons très sérieusement et assez rapidement pour la concrétisation de ce projet. Et vous savez que le 13 avril dernier, l'Union africaine, à travers le Conseil des pays de sécurité, a donné un mandat à autoriser le déploiement de cette force. Nous sommes en contact maintenant avec les Nations Unies pour avoir un mandat pour pouvoir le réaliser. Le gap que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de ces unités terroristes entre nos pays. Et je crois que ça constitue une menace. Et nous avons aussi beaucoup de zones dans nos États qui échappent, notamment dans le nord du Mali, à l'autorité de l'État. Et que ces deux facteurs combinés constituent aujourd'hui des sources d'insécurité pour nos pays.
Le docteur sociologue Lamine Sandy Aïdara préconise la formation des militaires maliens. Selon lui, tôt ou tard, les forces étrangères vont quitter le Mali.
Franchement, moi, je me pose la question, qu'est-ce que ces forces-là font au nord? C'est vrai que ça, on entend qu'ils ont attrapé tel djihadiste à tel endroit. Moi, je dis, ça ne suffit pas. Je suis sceptique là-dessus, j'ai des appréhensions. Ça ne sert à rien. Il faut encore qu'on évolue en fonction du terrain. C'est ça, une guerre. On ne va pas se laisser surprendre. Et je crois que le Mali doit pouvoir s'organiser. Il faut faire des recrutements. Il faut former en fonction de cette guerre aux accents asymétriques.
Pendant les 4 premiers mois de 2017, on a enregistré un record en matière de sécurité. Une vingtaine d'attaques, près de 200 victimes sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
De l'inédit au Bénin, un citoyen administrateur des sociétés saisit la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de l'élection de Patrice Talon, le président, arguant de, et je cite, « l'achat de conscience des députés le 4 avril dernier lors du vote sur la recevabilité du projet de révision de la Constitution béninoise ». Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
L'histoire politique du Bénin retiendra désormais ce nom, Adoté Viandro, cet administrateur des sociétés qui se dit exaspéré par la corruption galopante au Bénin, qui a saisi l'opportunité des révélations de Rosine Viera Soglo sur l'achat de conscience des députés pour saisir la Cour constitutionnelle. Un recours en invalidité de l'élection de Patrice Talon, c'est l'intitulé de la requête. Pour les spécialistes des questions de droit, c'est un projet qui ne peut aboutir. Valentin Aronsou est juriste et observateur de la vie publique.
En invalidité du président de la République ne peut intervenir que lorsqu'on constate qu'il y a eu inscription de faux dans le dossier de candidature du chef de l'État. Encore qu'il faut établir clairement que le président de la République a de manière claire et nette procédé à l'achat de conscience des députés.
Pour le requérant, l'achat de conscience qui aurait motivé le vote de certains députés au cours des débats sur la révision ou non de la Constitution serait la goutte d'eau de trop. Les députés s'insurgent d'ailleurs contre ce qu'ils appellent diffamation sur le Parlement. Gérard Benucci est député à l'Assemblée nationale. Il est membre de la Commission des finances.
Personne n'a jamais tenté d'acheter ma conscience dans son vote. Je ne vois pas, ce serait très malsain. Prendre l'argent avant d'exprimer mon vote, alors là, je n'existe plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement les lois, j'examine librement les textes de loi et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Et pourtant, l'Assemblée nationale a été toujours éclaboussée par ce genre de scandale où les voix les plus autorisées au sein de la société civile ont maintes fois dénoncé la facilité avec laquelle le Parlement, au lieu de contrôler l'action gouvernementale, préfère ne rien faire.
Ils oublient que, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ils vendent leur âme, ils vendent leur conscience, ils vendent leur pays.
Pour certains Béninois, les députés, en tant que représentants du peuple, se doivent d'être irréprochables.
La question de la corruption et qui persiste et qui nous ruine aujourd'hui simplement parce que nous n'avons jamais décidé d'aller à la phase la plus essentielle qu'est la punition. Donc c'est comme si collectivement nous acceptons un peu de cultiver cette impunité qui se fait favorable alors à ce foisonnement de situation. Cette mandature a un défi.
Y a-t-il eu oui ou non achat de conscience des députés le 4 avril dernier? C'est en apportant les preuves que le requérant pourra donner du poids à la demande déposée devant la Cour constitutionnelle, même si en l'état, la Cour constitutionnelle ne peut invalider une élection qu'elle a elle-même validée. Dans le rang des populations, on pense que dans un pays qui se respecte, la justice devrait s'autosaisir de cette affaire pour que si achat de conscience, il y avait eu, que les coupables subissent les rigueurs de la loi. De Cotonou, c'est notre là dans les pouvoirs africains.
Au Sénégal, le joueur de la NBA, Gorgui Dieng, a annoncé qu'il va financer l'équipement de plusieurs infrastructures hospitalières à travers son pays. Et il a commencé par le centre de dialyse de l'hôpital principal de Dakar. Le pivot de l'équipe de Minnesota, les Timberwolves, ici aux États-Unis, a également annoncé la création de sa fondation qui va venir en aide aux populations dans tous les domaines. De Dakar, reportage de notre correspondant Seydina Abagay.
La fondation va s'investir dans le domaine de la santé, du sport et de l'éducation. Tout ce que j'ai, je le dois au sport et à l'éducation, parce que j'ai fait tout mon cursus et eu tous mes diplômes sans débourser le moindre centime. Et je voudrais aider les gens dans tous les domaines où je pourrais le faire.
Gorgui Dieng a pour ambition de mettre le sport au service du social. L'hôpital principal de Dakar a déjà reçu un important lot de matériels médicaux de la part du joueur de la NBA. Le général Bakary Diatta, médecin-chef de l'hôpital principal de Dakar, se félicite de ses dons.
Ce matériel de dialyse et ce renfort permet de renforcer les acquis en matière de politique de gratuité des soins en dialyse. Ceci est un exemple concret du don de soi d'un des nôtres, d'un fils du Sénégal qui a réussi à l'extérieur et qui revient apporter sa contribution.
Le monde du sport se réjouit également de ce geste d'un des leurs, comme l'indique Ibrahima Kébé, joueur du Dakar Université Club.
C'est une fierté pour le Sénégal d'avoir un joueur qui a joué dans le championnat du Sénégal, qui a évolué après au championnat universitaire des États-Unis, qui a intégré la NBA et qui revient dans son pays pour faire des gestes vraiment très appréciables. Je ne fais que honorer ça et espère que les jeunes d'aujourd'hui vont suivre cette voie.
Le ministre des Sports, Matarba, invite quant à lui les athlètes sénégalais de haut niveau à s'inspirer de Gorgui Dieng.
Gorgui, avec sa fondation, ses partenaires, est en train de montrer la voie aux autres sportifs. Il est important d'être un champion dans une discipline bien déterminée, mais il est beaucoup plus important d'être un champion dans l'humanitaire.
Hormis les dons à l'hôpital principal de Dakar, Gorgui Dieng a équipé des centres de santé de la banlieue dakaroise. Il a aussi relevé le plateau médical de l'hôpital de Kébémer à hauteur de 250 millions de francs CFA. Avec la création de sa fondation, le pivot de Minnesota compte étendre ses actions à toutes les localités du Sénégal. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.